son enfant. Donc, cette présentation, en fait, est une présentation d'une étude qui a eu lieu en 2011 dans le sud de l'Ardèche. Sud de l'Ardèche, qui est une terre d'adoption des néo-ruraux, avec un territoire qui joue à la fois d'une tradition d'accueil et d'une image d'espace-refuge. Et cette monographie des habitats légers et mobiles a été conduite par l'association Avril, en raison de l'intérêt manifesté par le pays, les collectivités territoriales et les acteurs locaux pour un mode de résidentialité atypique en yourte, tipi, tente, marabout, roulotte, camion, caravane, cabane. Donc l'étude visait au départ à confronter les représentations sur l'habitat léger et mobile, et on va voir néanmoins qu'elle actualise les dimensions de conscience, de valeur et de responsabilité qui fondent les choix à la fois d'ancrage, mais aussi des habitants dans leur environnement. Cette association, qui est une association d'éducation populaire, a pour objectif de permettre à chacun de construire son projet par l'accès au savoir, d'inventer des réponses. Ah, donc je reprends le... Excusez-moi, c'est un petit peu rock and roll. Et donc, elle cherche aussi, elle accompagne les porteurs de projets et elle accompagne aussi les alternatives innovantes, solidaires, respectueuses de l'humain et de leur environnement. Donc, 24 témoignages ont été récoltés par d'habitants, mais aussi d'élus, ont été récoltés par Floriane Bonafou auprès de divers habitants. Le réseau d'habitants s'est fait par une interconnaissance en réseau, donc de l'un à l'autre, et aussi donc des élus et des politiques locaux. Et dans la lignée de Augustin Berck, nous examinerons le processus de co-suscitation entre l'homme et son milieu en décrivant la tonalité de l'habitat lorsqu'un des constituants de l'environnement sert d'habitat à l'espèce concernée. Donc voilà la zone d'étude. Nous sommes donc dans un milieu rural, essentiellement des toutes petites communes, notamment des toutes petites communes qui ont la caractéristique d'être aujourd'hui, pour certaines, en forte déprise. Donc, première inégalité, l'invisibilité et l'équivocité de ces modes d'habiter, parce qu'il y a une classification qui est totalement biaisée de l'INSEE. L'INSEE envisage deux catégories d'habitat, les logements ordinaires, dans lesquels sont inclus les mobilhomes, les caravanes, les habitations de fortune et les constructions provisoires, et les logements non ordinaires, qui concernent les habitations mobiles terrestres, les mariniers, les individus en foyer, en centre d'hébergement et d'accueil. Et on voit donc que l'habitat léger et mobile n'est absolument pas inclus dans cette classification, ou plutôt se répartit dans les deux catégories d'INSEE. Deuxième équivocité, s'agit-il de biens meubles ou immeubles? Le droit civil définit ces habitats-là, et notamment les biens meubles, comme des biens qui peuvent se déplacer. La jurisprudence les considère comme des immeubles par destination, puisqu'ils ont perdu bien souvent leur moyen de mobilité. En réalité, on pourrait, si on va jusqu'au bout de l'argument juridique, les considérer comme des biens meubles par anticipation, qui concernent en fait les récoltes, étant entendu que la définition juridique des meubles par anticipation, ce sont ceux qui sont attachés à un immeuble, en l'occurrence le sol, mais qui ont vocation à en être détachés. C'est juste pour m'amuser un petit peu avec le droit. Et en raison du flou lié à l'interprétation et à l'application des lois dans les communes, l'incertitude et les dilemmes sont au cœur de la démarche habitante. Faut-il se battre localement sur un territoire hostile pour faire évoluer les mentalités ou migrer vers des territoires plus accueillants et hospitaliers? Le postulat de départ est bien que ces habitants sont en fait des passeurs et des acteurs de la transition. Le préfixe « trans » qui exprime le passage nous permet de saisir les déplacements d'un lieu, d'une temporalité, d'une société et d'un état à un autre. Premier terme envisagé, translation, action de transporter, de transférer, action de faire passer un objet d'un lieu dans un autre, action de faire passer une personne d'une autre à la propriété de quelque chose. Et enfin, traduction, transposition, il y en a beaucoup dans cette étude. Transaction, transaction, action de passer, de finir, la fin. Transaction, c'est aussi un accord, un arrangement. Et puis ça concerne aussi les intermédiaires et les entremetteurs. Et enfin, transition, action de passer de l'autre côté, moment passager, passage ménager d'une chose, d'une idée à une autre, passage d'un état, des choses à une autre. Donc, premier point, on parlait d'inégalité, la vulnérabilité des habitants. L'hétéronomie se définit comme la capacité d'un être vivant à subir la règle du milieu environnement. C'est bien le cas ici. Ce mode d'habiter suppose de se prémunir du chaud comme du froid selon le mouvement des saisons et les climats. Nos cabanes, nous disent les habitants, sont construites avec des matériaux écologiques, bois, paille, chaud, couverture. Elles sont assez bien isolées, même s'il fait un peu froid l'hiver, mais on s'y habitue. D'une part, les récits dépeignent l'autonomie individuelle et collective, mais de l'autre, ils révèlent les dépendances auxquelles consentent les habitants en adoptant ce mode d'habiter. Enfin, l'observation montre que l'adaptation compose aussi avec la précarité de l'installation, la faiblesse des ressources économiques, l'adaptation aux aléas climatiques, les errements des normes et des règles juridiques, et ils sont nombreux, tandis qu'elle suppose une réelle capacité d'accommodation aux groupes sociaux environnement, les voisins, les habitants, les élus, les collectivités, les administrations. Des habitats hors normes et précaires, pourquoi ? D'une part parce qu'on a des droits d'occupation restreints, hein, jusqu'à 2014, jusqu'à la loi Allure, puisqu'on a réussi à faire reconnaître et à rentrer les habitats légers et démontables dans la loi Allure. Mais jusque-là, c'était des habitats qui ne pouvaient concerner que l'usage résidentiel touristique et que pour des temps extrêmement courts, alors que là, ce sont des biens qui sont destinés à des usages permanents. C'est aussi, ça prend place aussi dans le droit sous forme de droit dérogatoire, puisqu'on a tout le volet de l'habitat adapté, hein, qui concerne à la fois les gens du voyage, les sans-abri, les migrants. Un redoublement des inégalités, puisque moi je travaille sur plusieurs terrains, hein, là c'est le Sud-Ardèche, mais je travaille aussi en Cévennes, en Vaucluse et dans les Pyrénées. Nous avons à la fois de la catégorisation de populations cibles de l'action publique, des phénomènes de segmentation des statuts des terrains, puisque nous avons à la fois des terrains privés, des terrains locatifs, des terrains mis à disposition, fragmentation des types d'autorisation d'urbanisme, puisque là, quand il y a une autorisation en général, ce sont des autorisations orales qui sont délivrées par les élus, qui ne veulent pas enfreindre la loi, hein, donc autorisation orale, ça les protège d'un éventuel recours. Mais quand ils autorisent ça et qu'ils donnent un titre d'occupation, c'est toujours du permis à titre précaire, de la convention d'occupation temporaire, donc encore une fois, des outils dérogatoires, des phénomènes d'inéquité territoriale avec une politique de guichet sur fond de doctrine des services de l'État et une application extrêmement irrégulière et inégale surtout des règles d'urbanisme, des mécanismes enfin d'injustice sociale avec la privation des droits civils, politiques, économiques et sociaux attachés à la domiciliation, et enfin une stigmatisation des habitants et de leurs habitats qui sont évalués selon des critères juridiques en termes d'infraction, d'indécence, d'insalubrité, voire de troubles à la sécurité et à l'ordre public. Des usagers enfin contrevenants, je rappelle que le fait de construire sans autorisation constitue un délit, que la peine encourue est une amende qui peut être comprise entre 1 200 € et peut s'élever jusqu'à 300 000 € suivant la superficie concernée. Et puis enfin, c'est un habitat qui a toujours été classé, qui a été considéré comme un habitat indécent et tombe sous le coup de l'indécence puisque c'est un décret de 2002 qui définit la décence et les caractéristiques minimales de confort, mais que la loi de mobilisation et de lutte contre les exclusions le fait rentrer aussi dans la catégorie de l'habitat indigne, qui est défini ainsi. Les locaux et les installations utilisées aux fins d'habitation est impropre par nature à cet usage. Et enfin, l'habitat informel va les classer encore dans une nouvelle catégorie de droit, qui est celui d'un habitat informel, la loi Allure de 2014, qui concerne les habitats édifiés majoritairement sans droit ni titre sur un terrain dénué d'alimentation en eau potable ou de réseau de collecte. Alors, face à ça, nous avons de la stratégie adaptative, des arrangements et des ajustements avec le droit. Par exemple, et puis évidemment, des conflits qui évoluent entre évitement, conciliation, régulation. Carole, par exemple, a demandé l'autorisation de construire une cabane sur le terrain vacant d'une parisienne qui lui a mise à disposition, mais elle a dit aux élus que c'était pour stocker du matériel et pas pour y vivre. Oui, au début, nous dit-elle, tu as la crainte de vivre comme ça, car tu sais que c'est illégal et qu'on peut te l'interdire. Et puis tu oublies, tu te dis que tu ne fais rien de criminel, on ne va pas nous pendre. Afin de se prémunir d'éventuelles règles, les habitants vont aussi négocier des autorisations d'urbanisme, tandis que d'autres s'accommodent des outils existants, par exemple demander le bénéfice d'une serre chauffée de 80 mètres carrés pour pouvoir habiter dedans et en faire un habitat. Enfin, en raison de l'insécurité juridique dont je vous parle, la majorité ne sont pas propriétaires de leur habitat. mais en fait l'occupe sous forme de comoda, qui est un bail à usage, ou sous forme d'un bail à faire, ou sous, voilà. Et des bails à usage peuvent être soit à titre gratuit, soit à titre onéreux. Alors, translation spatiale et transaction sociale, on va parler de capacitation par l'accès aux ressources. Caractérisé par la mobilité géographique, le système de déplacement renvoie à la spatialisation de dispositifs techniques, juridiques, symboliques, à travers lesquels se médiatisent les rapports humains à leur environnement. Venu d'Écosse, donc là, je vous ai mis quelques trajectoires, hein, il a découvert la France par hasard, puis la Flèche, et finalement, il a réussi à acheter un terrain sur lequel il a entreposé une mûre terrain bus. Franck, lui, vit en camion depuis 13 ans sur des terrains loués ou prêtés. Il a investi dans un permis d'achat d'un poids lourd qu'il a totalement aménagé, dans lequel il a aménagé une menuiserie mobile. Mais aussi ce couple-là qui, après avoir voyagé 5 ans en roulotte avec leurs 3 enfants, se sont installés depuis 2010 sur un terrain à Chambonas. Ils nous décrivent tous en quoi ces habitats sont à la fois circonstanciels et providentiels. D'une part parce qu'ils sont unanimement présentés comme simples, économes, écologiques et économiques. Pour vous donner une idée de prix, les coûts aussi de 500 euros pour une caravane à 2000 euros pour une yourte autoconstruite, jusqu'à 5000 euros pour le camion aménagé de Franck. Les récits témoignent des vertus d'un temps libéré du salariat partagé avec d'autres, et plus globalement se partage la perception d'un temps renaturalisé permettant d'être à soi, aux autres, au lieu et au monde, je cite. Deuxième élément, la capacitation individuelle, construire pour se construire. Alors, les récits déploient l'approche par les capacités qui est proposée par Seine sous forme de liberté substantielle de la personne, qui engage la manière dont elle évalue et compare les qualités de vie selon une pluralité de valeurs. Parce qu'à la morale, en fait, dont vous avez parlé dans votre introduction, j'ai vraiment tenu aussi à rajouter la question des valeurs qui me semble très importante. Par exemple, Poulot autoconstruit sa cabane dans les arbres à 21 ans, avec des matériaux entièrement naturels, tout en travaillant comme bûcheron. Il dit « La cabane s'attend à devenir artiste. En faisant des cabanes, je me suis découvert, ça m'a canalisé. J'ai découvert que j'étais bien dans le travail du bois et de la pierre. » Bon, là, je vous cite un exemple, mais il y en a plein. Et puis, je voulais citer aussi les travaux de Lucie Girardon qui montrent que la propriété de soi-même et, au fond, s'appartenir préexiste à la propriété des biens parce qu'il faut s'habiter pour habiter. Empowerment, potentiel générant et auto-éco-organisation. Donc, je vous livre là quelques petits concepts. Le premier est emprunté à Yann Gosset. Le concept d'empowerment s'entend comme le processus par lequel les individus et les communautés acquièrent le contrôle des événements de leur vie. Le terme pouvoir agir vise ici la nécessité de réunir les ressources individuelles et collectives à l'action accomplie et à l'action envisagée. Par exemple, les résultants qui se succèdent au lieu-dit de Valos dans un petit hameau reculé, quatre adultes y résident, ils font du maraîchage, exploitent une châtaigneraie, un rucher, quelques bêtes en élevage. La majorité de la production leur permet de subvenir à leurs besoins, le surplus étant valorisé dans les circuits courts. Trois d'entre eux sont cotisants solidaires, l'un est bénéficiaire de RSA. Et c'est ce qu'on retrouve aussi beaucoup dans les témoignages, ce paradigme du don, qui s'avère tout à fait intéressant pour éclairer les récits. Don qui désigne un système dans lequel les participants donnent pour le bénéfice de la communauté et sont rétribués en retour par l'abondance générée pour le collectif. Le potentiel générant, il est emprunté à Michel Lu, qui nous explique que en fait, c'est un élément moteur capable de produire un mouvement, d'effectuer une transformation, d'induire un changement. Quels sont les éléments qui le permettent? D'une part, les forces naturelles, sociales, les besoins collectifs, nous dit-il, besoins collectifs qui peuvent fédérer les motivations des individus et les valeurs partagées. Et en dernier lieu, Edgar Morin appelle auto-éco-organisation la capacité d'un système à être autonome et à interagir avec son environnement, qui conçoit en même temps l'autonomie d'un être, en même temps que sa dépendance existentielle, à tout ce qui est nécessaire à son autonomie. Transition écologique dans les espaces ruraux, et bien dans son manuel sur la transition, Hopkins met à jour trois composantes essentielles de la transition. La relocalisation des activités et la mise en lien des initiatives économiques, associatives, d'intérêt général, communautaire et local, je rajoute et j'y tiens. L'agir local par le foisonnement de l'expérimentation, mais aussi la structuration d'actions par une communauté d'appartenance territoriale. Et enfin, l'instauration de liens de proximité et de sociabilité qui permettent d'explorer d'autres formes d'échange et d'usage des ressources en commun. Alain Gilbert, qui est le maire de Roc, une petite commune de 210 habitants, dans laquelle résident 7 personnes en habitat léger et mobile. Un couple d'agriculteurs a construit une cabane, 2 femmes vivent en yourte avec un projet de chèvrerie. Elles accueillent un intermittent du spectacle. 2 autres habitent dans une cabane sur un terrain privé. Un dans une clève, qui sont les anciens petits patrimoines vernaculaires de là-bas, tandis qu'un tipi va s'installer. Et aux yeux du maire, Alain Gilbert, l'habitat léger et mobile offre une alternative viable pour lutter contre la cherté des prix, la gentrification, la rareté du foncier, mais surtout la désertification des campagnes. Un autre élu municipal de la commune de Landivière insiste sur la nécessaire prise en considération des motivations des individus, autant que des composantes relationnelles de leur environnement, et il explique que c'est un fait social au confluent de tout un tas de problématiques urbanistiques, sociales, d'ordre public, d'hygiène, et que c'est aussi une question d'état d'esprit. Des valeurs de simplicité et d'écosophie. L'écosophie a été proposée par Félix Gattari, concerne l'analyse des relations entre l'écologie, le social, le politique et le mental, donc la mise au jour de ces relations et les modalités par lesquelles il devient possible d'agir sur celles-ci en vue de sortir de l'impasse planétaire. Je rappelle que l'auteur a décliné l'écologie à 3 niveaux, l'écologie environnementale pour les rapports à la nature, l'écologie sociale pour les rapports au socius, donc aux réalités économiques et sociales, et l'écologie mentale pour les rapports à la psyché, la question de la construction de la subjectivité humaine. Le fait de vivre en cabane nous a permis de mettre des projets avec peu de moyens en place, en chérisse Carole, Marc et Judith, et surtout cela nous a permis de vivre plus proche de nos envies. En vivant comme ça, on est en accord avec nos valeurs, on est proche de la nature, on sait ce que l'on consomme, on réduit nos déchets, nos consommations, et on est heureux comme ça, on n'est pas précaire. Donc la déconsommation et la décroissance, qui implique un choix de simplicité volontaire, a été popularisée en 1981 par Daniel Jean dans son livre sur la simplicité volontaire. Il y associe 5 valeurs, la simplicité d'ouvrage, l'autodétermination, l'échelle humaine, la conscience écologique et la croissance personnelle. Vous savez, c'est le grand débat, croissance, décroissance. Il faut décroître, mais non, c'est la croissance personnelle qui est attendue. Autre élément, emprise et déprise de l'espace habité au profit d'un simple usufruit, c'est-à-dire au profit d'un simple droit d'usage. Syria Emilianov a souligné une limite du rapport Wetland qui met en exergue les situations de pauvreté conduisant à la dégradation de l'environnement, mais ne dit mot sur les situations inverses où la pauvreté s'associe à des éco-savoirs et à une sobriété écologique. Pour Henri Emmanuel, la propriété dans notre société est un concept qui n'offre pas que des avantages. Le patrimoine immobilier, nous dit Manu, c'est quelque chose de lourd que l'on transmet. L'habitat léger et mobile, c'est pas pareil. C'est petit, c'est facile à entretenir, c'est démontable, ça peut s'effacer. En complément, d'autres récits restituent le refus de l'endettement, les taux usuriers pratiqués par les banques et du crédit qui bloque les gens procurent un grand stress et les empêchent de réfléchir. En outre, l'usufruit d'un modeste écologie suffit à compenser le risque de sa perte, explique Yves. Pourquoi ? Ici, les huissiers ne viendront pas me piquer mon toit si un jour j'ai des problèmes financiers, sauf s'ils veulent mes bottes de paille. Alors que quand tu es propriétaire, en réalité, tu as toujours ce risque. Et la photographe qui les a photographiés pendant 5 ans, Alexa Brunet, dont les travaux sont assez connus, explique que ses habitants ont choisi de vivre comme ça et d'aller au bout de leur rêve, avec cette démarche de ne pas être propriétaire, de se détacher du matériel, du système de crédit. Tout comme un autre travail de Philippe Delaney, qui décrit comment l'alter habitat que lui a observé dans la campagne du Gard, hein, c'est un mémoire de la DHUP, la Direction Habitat et Urbanisme et Paysages de 2013, a contribué à désacraliser le droit absolu de propriété car il n'existe plus que le temps de son installation et n'ajoute aucune valeur immobilière à la terre. Hein. Mais alors là, il faut ajouter que certes, il n'ajoute pas de la valeur mobilière à l'habitat et pourtant, il procure une valeur environnementale au terrain, les terrains étant souvent en déshérence, sans usage, voire même pour certains terrains qu'on a vus en état de désusage avant que les habitants s'en réoccupe. Donc faible empreinte et emprise écologique, là je voulais aussi travailler peut-être sur les liens dedans-dehors, économie d'espace habité, donc là vous voyez un habitat serre avec la superficie à l'intérieur, Dernier point, l'habitat soutenable et réversible, et bien l'habitat en yourte a une sobriété énergétique et une prise de conscience écologique, argumente Hugo, hein, les fameux 3E, écologie, économie, entraide. La transition énergétique implique de repenser la conception des systèmes en faisant appel à un ensemble de solutions, diversification des sources d'énergie pérennes, renouvelables et locales, réduction de la consommation, efficacité et sobriété énergétique, dans le choix des éco-matériaux et des systèmes constructifs, et réduction des émissions de CO2. Et au fond, les initiatives s'inscrivent pleinement dans le programme des CIR, les acteurs du réseau pour l'après-développement, initié par François Partant. Les CIR, c'est quoi ? Réévaluer, restructurer, redistribuer, réduire, réutiliser, recycler. Réévaluer, cela signifie revoir les valeurs auxquelles nous croyons et sur lesquelles nous organisons notre vie. Restructurer, c'est adapter l'appareil de production et les rapports sociaux en fonction du changement de valeurs. Redistribuer s'entend comme la répartition des richesses et l'accès au patrimoine naturel. Réduire veut dire diminuer l'impact sur la biosphère de nos modes de produire et de consommer. Et enfin, recycler les déchets incompressibles de notre activité, puis réutiliser au lieu de jeter les appareils et les biens d'usage. Conclusion, ménagement de l'espace et pluriusage localisé de ressources pérennes. Quelles sont aujourd'hui les revendications des habitants ? Que je connais plutôt bien, puisque je travaille depuis 10 ans avec l'association ALEM, à la défense de ses habitats et de ses habitants. Donc, d'une part, diversité de l'habitat, avec des écologies adaptées aux faibles besoins des habitants et aux ressources territoriales, leur conception bioclimatique pour diminuer les besoins en énergie, voire même le changement de place de l'habitat suivant les saisons, suivant la luminosité, suivant les périodes froid-chaud, une architecture de cueillette, usage de matériaux locaux et ou de récupération, des techniques et des savoir-faire constructifs adaptés au milieu, au climat et à leurs interactions, puisqu'on a aussi des producteurs de yourtes sur place qui utilisent certaines catégories de bois suivant les milieux dans lesquels les habitats vont être implantés, une faible empreinte écologique des implantations avec une non-artificialisation des terrains, une limite de l'emprise au sol, une faible hauteur, une absence de fondation, une maîtrise et un tri des déchets à la source et des systèmes d'assainissement biocompatibles. Et enfin, une réduction de la précarité économique et sociale avec la relocalisation d'une pluriactivité dans les territoires ruraux. On a rencontré à la fois des agriculteurs, des artisans, des artistes, des saisonniers, des ouvriers, des étudiants, des intermittents, voire même des femmes en camion qui vont coiffer les petites vieilles dans les villages ruraux complètement désertifiés qui ont créé leur activité en partant des besoins du territoire. Les habitants décrivent largement l'attachement à l'environnement, attachement qui est l'acte en philosophie par lequel l'individu assume les valeurs qu'il a choisies et donne, grâce à ce libre choix, un sens à son existence. Les composantes socio-spatiales relationnelles qu'ils mettent aussi en œuvre et dont ils parlent beaucoup, ce qui entoure, qui est aux environs, les alentours, l'ambiance, l'atmosphère, le cadre, le climat, la compagnie, l'entourage, le milieu qui est à la fois nature, biotope, écosystème. Dernière caractéristique, l'engagement en conscience des individus par leur mode d'habiter, l'engagement exprimant l'état où l'on est lié par quelque obligation, mais aussi l'action de lier par une convention, un contrat, ou encore le fait d'entrer dans un espace étroit et enfin celui d'engager un combat. Et je peux vous dire que ce combat, il est effectivement assez quotidien. Soutenable versus durable, car éphémère, et je termine définitivement, mais ça fera le lien peut-être avec l'exposé de Françoise, les expériences déclinent les objectifs de la loi portant engagement national pour l'environnement de 2010, hein, qui inscrit aussi l'environnement comme un droit devoir, y compris de prendre soin et attention au milieu naturel. Ces modes d'habiter participent aussi de la transition écologique et énergétique, et je me faisais la réflexion en entendant Françoise tout à l'heure de penser que cette loi de transition énergétique aurait dû être une loi de transition écologique pour la décroissance, alors que là on est avec une loi de transition énergétique pour la croissance verte, donc vous voyez le travers et les aléas en fait de ce texte. Ces modes d'habiter donc participent de la transition écologique. Et enfin, l'habitat s'inclut dans l'économie circulaire, car il est démontable et recyclable et minimise ainsi le coût de son démantèlement. Et ça a été très largement détaillé par un élu municipal du Pont de Montvert. L'aspect démontable fait appel à la notion de durabilité. Donc c'est un petit peu compliqué, hein. Éphémère, donc durable, d'empreinte que nous laissons sur le territoire et que nous léguons aux générations futures, alors que l'on pourrait imaginer une toute autre façon de faire, où chaque génération prendrait soin de déconstruire ce qu'elle a entrepris pour rendre un territoire vierge afin de ne pas encombrer les générations nouvelles des restes du passé. Voilà, je vous remercie.